Mafia, anatomie d'une pieuvre.
Alors que la DZ Mafia accroît son emprise dans le sud de la France, retour sur l'histoire de la mafia. Quoi de commun avec sa naissance en Sicile au 19e siècle, son pouvoir aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres ou en Chine et au Japon?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'économiste Clotilde Champerrache.
Épisode 5, 1982, Italie, quand une loi change tout.
L'association est considérée comme de type mafieux quand ceux qui en font partie se prévalent de la force d'intimidation du lien associatif et de la condition d'assujettissement et d'omerta qui en découle. Extrait de la loi Rognoni-Latorre, votée en Italie le 13 septembre 1982. On continue notre conversation et notre voyage dans ces mafias qui nous font peur et qui tiennent une bonne partie de l'économie mondiale. Avec vous, Clotilde Champerrache, cette date-là, c'est vous qui la vouliez absolument, 1982. Pourquoi est-elle si importante à vos yeux ?
C'est la première fois qu'on définit juridiquement ce que c'est qu'une mafia. Et ça, c'est important parce que les termes sont importants dans la lutte contre les organisations criminelles. Elles sont extrêmement variées. Toute organisation criminelle n'est pas une mafia, heureusement, parce que quand on voit le descriptif qui est fait dans l'article 416 bis du Code pénal italien...
C'est celui-là.
Oui, voilà, c'est la loi Rognoni-Latorre qui ensuite est introduite dans le Code pénal italien.
Juste pour préciser la loi, c'est ensuite l'association est considérée comme de type mafieux, etc., pour commettre des délits, pour acquérir directement ou indirectement la gestion ou en tout cas le contrôle d'activités économiques, de concessions, d'autorisations, des marchés, des services publics ou pour réaliser des profits ou des avantages injustes pour eux ou pour autrui ou bien afin d'empêcher ou de faire obstacle au libre exercice du vote, intéressant, ou de se procurer des votes à eux-mêmes ou d'en procurer à autrui à l'occasion des consultations électorales. Intéressant cette dimension sur le vote et la démocratie.
Oui, et puis on voit bien qu'on est quand même sur des formes d'organisation criminelle particulièrement problématiques, d'une certaine façon totalisantes dans leur façon de faire. D'ailleurs, à Naples, on ne dit pas la Camorra, on dit au système, le système.
Ah ouais.
Parce que ce sont des organisations criminelles qui sont, encore une fois, à cheval sur le légal et l'illégal. C'est-à-dire que quand vous vivez sur un territoire de mafia, vous ne pouvez pas faire abstraction du crime. Même si vous vous dites « je vais respecter la légalité », vous serez quand même confronté à cette présence mafieuse. Ce sont des criminalités du quotidien. Et cet article 416 bis, il décline effectivement la gamme des activités mafieuses. Et ça n'est pas que de l'illégalité.
Non.
Ça n'est pas non plus identifié à un trafic en particulier.
Non.
On ne mentionne pas les stupes.
Non.
Mais il y a tout le volet légal... infiltration de l'économie légale.
Oui, les services publics.
Les services publics en particulier, les marchés publics, c'est quelque chose qui attire profondément les mafias. Et puis, effectivement, ce conditionnement de la sphère politique avec ce que les Italiens appellent le vote d'échange, ce que les Japonais appellent la brume noire. C'est le fait que les mafieux contrôlent un territoire au point de contrôler la population qui vit sur ce territoire et de pouvoir donner des consignes de vote. Donc ensuite, aux élections locales, ils vont voir les candidats et ils disent « Moi, je contrôle tel paquet de voix. Est-ce que vous acceptez ?» Et une fois que le politicien qui a accepté est élu, parce que ça fonctionne, on vérifie que les consignes sont respectées, il rend la faveur. Il rend la faveur avec les marchés publics qui sont dévoyés, avec des plans d'urbanisme qui changent, avec l'octroi de concessions pour construire des centres commerciaux. En Sicile, on a plus de centres commerciaux que de capacité à consommer de la population. Mais ça peut être aussi des places en crèche, l'accès aux logements sociaux, etc. Et ça valorise encore une fois la mafia.
On est en 1982 quand la loi est votée. C'est un contexte d'hyper-violence mafieuse en Italie. C'est pas n'importe quand. Décrivez-nous un peu le moment, le contexte.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'entrée de Cosa Nostra dans le trafic de stupéfiants, ça n'a pas été qu'une bonne affaire pour eux. Ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ça a aussi beaucoup bouleversé l'organisation criminelle, avec des affaires un peu parfois trop grandes pour eux, des guerres de famille autour de ces stupéfiants. On a deux guerres de mafia dans les années 60 et à la fin des années 70, et ces guerres de mafia sont liées au trafic de stupéfiants, très clairement. Ce qui a imposé à Cosa Nostra de revoir un peu ses structures pour justement essayer de baisser le niveau de violence parce que la population commence à remettre en cause le consensus social, et puis évidemment l'État italien ne peut plus supporter tous ces morts. Juste avant le vote de la loi italienne, vous avez plusieurs décès importants. Hein. En 1979, vous avez un enquêteur, Boris Giuliano, qui est tué, le juge Cesare Terranova, le policier Lénine Mancuso, ouais. le journaliste Mario Francese. Enfin, il y a toute une accumulation, puis on voit que ça touche beaucoup de monde, hein, des journalistes, des enquêteurs, des policiers. Et puis, il y a quand même un assassinat majeur, c'est l'assassinat du général Dalla Chiesa, qui a été oui. envoyé comme préfet
juste avant.
À Palerme, 100 jours, les 100 jours du préfet Dalla Chiesa, ça a donné d'ailleurs le nom à un film.
Oui.
Et ce préfet qui avait demandé des pouvoirs exceptionnels pour lutter contre la mafia, parce qu'il avait bien perçu l'ampleur du phénomène, il n'a pas eu ses pouvoirs exceptionnels, mais sa mort va précipiter les choses, notamment avec l'adoption de cette fameuse loi qui reprend le nom de Pio La Torre, qui était aussi un député qui se battait pour pouvoir mener ses enquêtes financières, qui se battait pour lever le secret bancaire et pour pouvoir confisquer les biens des criminels. Donc, une accélération, malheureusement dû à la mort de personnes de haut niveau dans la lutte contre la mafia. Un autre mort de l'époque, c'est le frère de l'actuel président de la République italienne, Sergio Mattarella, le président, son frère qui était le président de région, Pier Santi Mattarella, est aussi tué par la mafia.
Qu'est-ce que ça change, cette loi, concrètement et presque à court terme ?
Alors déjà, c'est la reconnaissance officielle que être mafieux, c'est pas un état d'esprit typiquement sicilien.
Basta così, ça suffit.
Ouais, c'est une organisation. Donc elle a ses structures, elle a une forme d'unité, ce qui ne nie pas la dimension des familles. Ça permet aussi de frapper plus durement, hein, les peines sont plus lourdes quand vous êtes convaincu d'association mafieuse. Ça va permettre aussi la confiscation des avoirs criminels, avec en plus un type de confiscation en Italie qui est spécifique, qui diffère du droit français, c'est ce qu'on appelle les mesures de prévention patrimoniale. C'est-à-dire qu'on peut confisquer en Italie sans condamnation pénale les biens d'une personne. La simple affiliation, donc être membre de l'association mafieuse, fait de vous quelqu'un de potentiellement dangereux. Hein. C'est la dangerosité sociale aussi qui est définie dans la loi italienne.
Est-ce que le statut de repenti date de l'époque aussi ou c'était déjà le cas ?
Sur les repentis, alors c'est le terme exact, c'est collaborateur de justice. Parce
D'accord.
que, justement, les Italiens ont beaucoup réfléchi à ce sujet-là. On parle beaucoup de Bouchette, hein, le fameux collaborateur de justice qui a permis au juge Falcone de fortement avancer sur ses enquêtes et que le juge Falcone est allé chercher aux États-Unis. On parlait de coopération italo-américaine.
Ah oui.
Là, c'est un bon exemple. Bouchette est arrêté sur le continent américain et Falcone va le rencontrer là. Et un rapport de confiance va s'établir entre les deux hommes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand Bouchette parle, il n'y a pas encore ce statut de collaborateur de justice pour les mafieux. Donc il va parler, non pas parce qu'il y a un intérêt financier, etc., il va parler parce qu'il n'en peut plus. C'est un homme qui a vu énormément de membres de sa famille être tués, donc il ne peut plus vivre cette vie de cavale, et il choisit de faire confiance à Falcone. Pas en état italien, hein, en réalité, c'est vraiment un rapport interpersonnel très fort qui s'établit. Et ensuite, le juge Falcone va montrer l'importance de ce témoignage-là pour la lutte anti-mafia et on va développer ce statut de collaborateur de justice qui existe déjà en droit italien pour le terrorisme. Parce que la législation anti-mafia italienne découle fortement de la législation anti-terrorisme.
Venons-en à Giovanni Falcone, le juge Falcone. Racontez-nous sa fin et ce qu'elle a produit dans le pays.
Alors, la fin du juge Falcone, il faut voir que ce qu'il a vécu, c'est quand même ce qu'il a appelé la saison des poisons. C'est-à-dire que maintenant, on a tendance à dire qu'il était acclamé dans tout ce qu'il faisait. La réalité est beaucoup plus complexe. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu les derniers mois de sa vie de façon très isolée et très amère. C'est un homme seul qui se bat contre la mafia, qui se bat contre des taupes au sein du tribunal de Palerme.
On est en quelle année, là ?
Alors, il est assassiné en 1992. Mais avant ça, il a réussi une opération majeure qui est le maxi-procès de 1986, avec notamment le juge Paolo Borsellino, qui lui aussi va être assassiné en 1992. Et ce qui est fascinant dans ce maxi-procès, alors qui découle de la loi de 1982,
hein,
qui
cible
le délit d'association mafieuse, qui va s'appuyer sur le témoignage fondamental de Tommaso Buscetta, qui sait énormément de choses sur le fonctionnement, en tout cas des familles palermitaines. Et le procès, le maxi-procès de 1986, alors c'est quand même 474 inculpés qui sont dans un bâtiment qui est bunkérisé hein, pour l'occasion, tellement la pression est grande. 8607 pages d'accusation.
Incroyable.
Quelque chose d'incroyable. Et ce qui est fascinant, c'est les premiers mots du procès où on dit « Ceci est le procès fait à l'organisation appelée Cosa Nostra ». C'est l'organisation. Ouais. C'est pas des individus isolés, on fait tomber une ou deux personnes.
C'est pas une famille, c'est l'organisation.
Ouais. Et là, toute la loi de 82 sur le délit d'association mafieuse prend toute son ampleur. Et c'est le début de vrais outils dans la lutte contre la mafia. Donc il y a cette réussite, hein, un procès qui dure très longtemps, qui s'achève en 1987. Et puis, un durcissement progressif de la législation anti-mafia. Hein, c'est aussi ce dont on a parlé en France récemment, le régime carcéral dur pour les chefs de la mafia, qui est aussi la contrepartie du statut de collaborateur de justice. C'est-à-dire que pour ces personnes identifiées comme de haut niveau dans l'organigramme mafieux, on va proposer une alternative. Soit vous collaborez avec nous. Si vous ne collaborez pas, vous assumez et vous allez au régime carcéral dur, qui est effectivement un régime carcéral extrêmement fort.
Et ils vont tuer Falcone.
Et voilà, il y a toute une logique de rapport de force que Cosa Nostra essaie d'instaurer avec l'État italien pour le faire revenir en arrière sur les condamnations de 1986. D'ailleurs, il y a un retour en arrière, et puis finalement, en cassation, on va quand même reprononcer des peines fortes. Et une tentative aussi de revenir en arrière sur ce régime carcéral dur. Et finalement, assassinat du juge Giovanni Falcone. Et puis, donc ça, c'est en mai 92. En juillet 92, c'est Paolo Borsellino qui meurt, oui, et qui, au moment de la mort de Falcone, a dit « Bon, moi, j'en ai plus pour longtemps ». Donc, il se savait visé. On a aussi ce qu'on oublie des attentats à Milan, à Rome et à Florence, en 1993.
Des attentats mafieux.
Oui, des attentats mafieux, pour essayer de faire plier l'État italien. Il y a des morts, d'ailleurs, à Florence. Ça touche même le musée des Offices, avec des œuvres d'art qui ont été détruites lors de cette explosion. Donc, une stratégie, encore une fois, pour essayer de mettre l'État en difficulté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un point de bascule à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en 1992, la population de Palerme
se lève.
C'est ce qu'on appelle la révolte des draps blancs. C'est-à-dire des gens ont le courage, parce que c'est vraiment courageux sur des territoires de mafia, de mettre un drap blanc à leur fenêtre, à leur balcon, pour montrer qu'ils se dissocient.
Mais 35 ans après, la mafia est encore là, vous nous l'avez dit.
Oui, la mafia sicilienne est toujours là. Alors, c'est terrifiant parce que les grands chefs qui étaient en cavale ont été arrêtés.
Hein,
Rina Provenzano, avec 30-40 ans de cavale.
Ouais.
Matteo Messina Denaro, il y a deux ans. Mais ça n'a pas fait tomber l'organisation criminelle. Ce qu'on observe même, c'est que les palermitains qui avaient fui, parce que c'était les Corléonais qui montaient en puissance, les Corléonais ont vu leur chef tomber. Les palermitains sont en train de rentrer des États-Unis. Et on a...
En ce moment-là.
Oui, ça fait quelques années qu'on voit des flux de retour de ces gens qui avaient fui les Corléonais, qui reviennent. Ça passe de plus en plus aussi, cette extension mafieuse en Sicile, par l'activité économique légale.
C'est-à-dire ?
La prise de contrôle sur des entreprises pour capter l'économie et faire ployer aussi le territoire.
Et cette extension, elle est peut-être également... Chez nous, ce sera l'objet de notre dernier épisode Retour à Marseille. Mafia, anatomie d'une pieuvre est un podcast original de France Inter.